La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Y a-t-il des handicapés ? La question peut surprendre, tant le mot est passé dans le langage courant, non seulement le mot, mais le groupe au-delà des personnes qu'il désigne. Les handicapés, un groupe social qui fait, à ce titre, l'objet d'une politique publique, notamment dans le cadre défini par la loi de 2005. Mais qu'y a-t-il de commun entre un aveugle, une personne sur une chaise roulante, un dyslexique ou un débile léger, pour reprendre une catégorie médico-administrative? Il y a l'administration, donc unique, maison du handicap, un mot handicapé pour désigner des situations définies médicalement et qui pourtant sont toutes extraordinairement différentes les unes des autres. Comment le comprendre? Il faut pour ça une sociologie originale du handicap. Eh bien, nous en disposons. L'institution du handicap est le livre de Romuald de Bodin, qui est l'invité aujourd'hui de la suite dans les idées. Et en deuxième partie d'émission, c'est un personnage de roman que nous recevrons, Anne-Sara K, c'est le titre d'un roman de Mathieu Simonet qui va paraître au début du mois de février, mais ce n'est pas l'auteur du livre que nous recevons. C'est la juriste responsable directrice de l'association Droit Pluriel, Anne-Sara Kertudo, qui sera notre invitée pour dialoguer avec Romuald de Bodin de cette question du handicap. Bonjour Romuald Bodin.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Poitiers et vous publiez ce livre, donc l'institution du handicap, aux éditions La Dispute. Vous commencez par rappeler dans ce livre que le handicap ne vous a pas attendu pour faire l'objet d'études sociologiques. On pense évidemment spontanément aux remarques diverses que le très grand sociologue Irving Goffman a pu faire sur le handicap. Mais au-delà de ces travaux pionniers de Goffman, il s'est développé tout un champ de recherche en sociologie, plus largement en sciences sociales, même un domaine d'études, peut-on dire. Tout ça est très intéressant, vous l'avez lu, j'imagine, attentivement, vous nous expliquez que ça continue à se développer, à s'enrichir, mais que un pan entier, finalement, de la question a été laissé de côté, un pan très important, parce qu'au fond, il s'agit, là encore, de faire valoir droit à la sociologie dans ce qu'elle a de plus important, au fond, c'est-à-dire reconnaître comme social des phénomènes qui sont par trop souvent réduits à des dimensions biologiques, en l'occurrence médicalisées. Et donc, en dépit de tous ces travaux sur le handicap dans les sciences sociales, il vous semblait, Romuald Bodin, que cette biologisation du handicap restait le prisme prioritaire ?
Oui, c'est ce qu'il m'a semblé observer, c'est-à-dire que tous les travaux, y compris donc en sciences sociales, en sociologie, restent en quelque sorte saturés de références, ne serait-ce qu'implicites, au domaine médical, dans la mesure où, quand on traite de la question du handicap en sociologie, on a tendance à traiter de ce qui, quelles sont les conséquences sociales du handicap pour une personne en situation de handicap. Mais on se demande pas si la sociologie a quelque chose à dire sur ce qu'est, au sens strict du terme, le handicap.
Alors, comment vous avez procédé pour essayer de construire cet objet, comme on dit, tout simplement, le handicap? Comment et à quelles conditions peut-on parler, du coup, de handicap quand on est sociologue?
Alors, la première chose à faire, c'est de tester en quelque sorte les définitions qui existent sur le handicap. Alors, c'est déjà une question intéressante pour le sociologue parce qu'il y en a plusieurs. C'est la première chose qu'on apprend quand on s'intéresse au handicap, c'est qu'il y a une sorte d'espace des définitions possibles du handicap avec des approches très biomédicales, des approches plus sociologiques, c'est un peu fort de le dire comme ça.
Socio-environnementales.
Voilà, sociales ou socio-environnementales, que donc à chacune introduisent plus ou moins fortement le sociologique ou le social, mais sans jamais complètement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, l'introduire complètement dans le cœur de la définition du handicap. D'un côté, donc, on a une définition biomédicale classique qui réduit en fait le handicap à la déficience, c'est-à-dire à un dysfonctionnement, une absence. Alors, déficience vient de déficit, hein, c'est le même champ sémantique, c'est un déficit, l'absence d'un organe ou en tout cas l'absence de son fonctionnement normal. Et de l'autre côté, on a des approches qui introduisent le social, mais c'est toujours pour le réduire plus ou moins fortement à des questions d'environnement. Donc la déficience est toujours présente, il semble qu'on ne puisse pas s'en passer, et en même temps, la différence qui est faite, et c'est une véritable avancée, hein, je ne le remets pas du tout en question, mais le social sert simplement à distinguer entre des déficiences qui seraient sans conséquences ou avec des conséquences tout à fait relatives, et des déficiences qui auraient des conséquences graves, et seules ces dernières peuvent être définies comme handicap. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que d'abord, si on teste ces définitions, on s'aperçoit qu'elles ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'elles ne recouvrent pas
tous les cas.
Voilà, tous les cas. La diversité des cas qu'on observe empiriquement. Hein, j'ai travaillé notamment sur des statistiques de recherche de nature épidémiologique où on s'aperçoit que il y a toute une série de cas de personnes qui ont des déficiences importantes avec des conséquences importantes qui n'ont pas de reconnaissance du handicap, qui n'entrent pas dans le champ du handicap. Et à l'inverse, on a toute une série de situations de personnes qui sont dans le champ du handicap reconnues comme administrativement, mais aussi voilà par le de manière ordinaire par leur entourage, et qui pour autant n'ont pas de déficience, en tout cas de déficience clairement identifiée, reconnue. Alors tout mon travail essaie de résoudre cette difficulté et de pas me contenter de faire référence à des erreurs d'analyse qui reviendraient soit donc à l'idée qu'un certain nombre de personnes en situation de handicap seraient dans le déni de leur déficience, ou que pour ceux qui ont des déficiences mais pas de reconnaissance seraient dans le ce qu'on appelle le non-accès au droit, refuserait la reconnaissance du handicap. Alors j'ai essayé de montrer dans quelle mesure on pouvait aller plus loin et montrer que ce qui faisait le handicap, en fait, ne nécessitait absolument pas de référence à la déficience proprement dite, que dans le monde social, on ne qualifie pas quelqu'un de handicapé parce qu'il est porteur d'une déficience. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas être du tout le cas, parce que ce n'est pas du tout cela qui est jugé, et je pense que c'est le cœur de mon travail, c'est de montrer que dans tous les cas, ce qui est jugé, qu'il y ait ou non déficience, c'est une manière d'être. Il y a des...
Une manière d'être dans un contexte.
Voilà, c'est ça, une manière d'être dans un contexte. C'est évidemment le contexte qui permet de distinguer différentes manières d'être, mais en tout cas, ce qui est jugé, c'est toujours une manière d'être. La déficience, souvent, elle est recherchée, elle est soit simplement supposée, sans même qu'il y ait de recherche de cette déficience. Donc, quand je dis déficience, je le rappelle, c'est bien l'aspect biomédical qui serait la cause sous-jacente du handicap. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans de très nombreux cas, alors prenons par exemple, alors c'est peut-être un exemple plus facile que d'autres, mais il est paradigmatique, c'est celui de la déficience intellectuelle, et notamment de la déficience intellectuelle légère, qui regroupe quand même, recouvre 80% des cas de déficience à quelque chose près. Et dans ce cas-là, entre les travaux en épidémiologie montrent qu'on est entre 50 et 80% selon les références, entre 50 et 80% de cas de déficience intellectuelle pour lesquels il n'y a aucune déficience d'identifier, de connue, d'observer, etc. Donc on observe la déficience intellectuelle qui est une manière d'être, une sorte de niveau de performance cognitif, mais sans qu'on puisse identifier la moindre déficience. Alors cet exemple est très intéressant parce qu'il montre qu'on peut très bien désigner quelqu'un comme personne handicapée sans avoir la moindre information sur la déficience qui est supposée causer...
Plan médical,
c'est voilà, ça, au plan médical, c'est ça, au plan physiologique ou neurologique, etc., expliquer le handicap. Donc, ce qui est jugé, ce qui est qualifié comme handicap ou non, c'est la manière d'être de ces individus. En l'occurrence, ici, c'est leur difficulté donc à s'approprier et à être performant dans un contexte scolaire.
Alors, cette manière d'être, elle est jugée, elle est évaluée et elle renvoie éventuellement, in fine, à l'étiquetage handicapé, qui est le même, et ça, on y reviendra, pour tout un tas de situations extraordinairement différentes, mais elle l'est par des institutions. Vous faisiez référence à l'instant à l'école. L'école joue un rôle très important, mais il y a aussi d'autres institutions comme le lieu où l'on travaille, l'entreprise par exemple. En tous les cas, ce sont toujours ces institutions qui sont à l'origine de l'observation de cette manière d'être qui pose problème à l'institution d'une certaine façon, on peut le dire comme ça, et qui aboutit à la reconnaissance du handicap.
C'est ça. Une partie de ce travail a consisté à essayer de prolonger l'idée d'environnement qui conditionne donc l'entrée ou non dans le champ du handicap, et à montrer que ce concept d'environnement social était extrêmement réducteur dans la plupart des travaux qui le mobilisent. Et j'ai essayé donc de sociologiser bien plus fortement que ce ne l'était auparavant cette idée d'environnement. Donc c'est quoi le social pour un sociologue ? C'est évidemment ça fait débat et tous les sociologues ne sont pas d'accord sur ce point, mais il y a un concept qui est central en sociologie, c'est celui d'institution. Et j'ai essayé de croiser ici une sociologie du handicap avec une sociologie des institutions. Et effectivement, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce qu'on appelle l'environnement, c'est pas n'importe quel environnement, c'est pas un environnement en général, c'est pas ça.
Et le mot environnement est problématique parce qu'il indique quelque chose de nécessairement secondaire, périphérique. C'est-à-dire, environnement, c'est ce qui fait le tour, c'est pas central. Or, vous, ce que vous montrez, c'est qu'il s'agit bien de quelque chose de central.
Et le concept d'institution, il aide particulièrement bien parce que l'institution, c'est un concept en sociologie qui permet à la fois de saisir des éléments matériels, les objets, l'architecture, etc., mais aussi symboliques, les significations, les rôles, les statuts, etc.
Les hiérarchies, les grades.
Les hiérarchies, les grades, y compris les tâches, hein. La nature des tâches, la division du travail, etc. Donc tous ces éléments qui font système et qui constituent des institutions, la famille, l'école, le travail, etc., sont le fondement même de la vie sociale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va identifier des manières d'être qui posent problème. Alors j'y insiste parce qu'on dit souvent, on qualifie les personnes en situation de handicap comme des personnes fragiles. Alors je dénie pas du tout la fragilité ou les difficultés rencontrées par ces personnes-là, mais ce que j'essaie de montrer dans mon travail, c'est que bien plus que cela, d'abord, je ne sais pas si on pourrait généraliser cette idée de fragilité. Hein, beaucoup de personnes rencontrées au cours de mon travail ne revendiquent aucune fragilité et font montre d'une véritable force. Mais justement, d'un point de vue sociologique, c'est ce qui est fragile dans ce cadre-là, ce ne sont pas ces personnes-là, mais les institutions qui sont en quelque
fragilisées
sorte fragilisées
par la présence de gens dont le comportement ne leur convient pas.
Ce qui pose problème, ce qui fait que ces manières d'être vont être pointées du doigt et identifiées comme des handicaps, ce ne sont pas qu'elles sont fragiles ou trop peu performantes, parce que justement, par exemple, dans l'éducation nationale, on distingue bien les élèves peu performants des élèves handicapés, et les élèves handicapés sont pas toujours les moins performants, mais leur manière d'être spécifique remet en question, finalement, le fonctionnement de l'institution scolaire. Pour que l'institution continue à fonctionner telle qu'elle fonctionne, elle doit écarter ces manières d'être-là qui remettent en question leur fonctionnement ordinaire, leur fonctionnement quotidien. Et tout l'enjeu de ce travail, c'était de montrer que ce raisonnement qu'on peut faire concernant l'école et les handicaps que je qualifie de scolaires peut être généralisé à tous les handicaps en montrant comment toutes les grandes familles de handicaps, telles que le handicap moteur, les handicaps sensoriels, les handicaps mentaux, les handicaps psychiques, renvoyés en réalité, chacune de ces familles renvoyées à des institutions spécifiques. Le handicap psychique renvoie à l'institution famille, les handicaps sensoriels renvoient à ce que j'appelle l'institution de l'espace public, les handicaps moteurs renvoient à l'institution travail et les handicaps mentaux renvoient à l'institution scolaire. Chacune de ces institutions se retrouve fragilisée par l'existence de ces singularités, de ces manières d'être singulières, qui renvoient ou non à des problèmes médicaux. Mais un grand nombre d'elles peuvent ne pas renvoyer des problèmes médicaux, justement parce que ce qui est jugé, c'est pas la déficience, c'est cette manière d'être.
Alors pendant très longtemps, ces institutions, en tous les cas, prenons toujours le cas de l'école par exemple, ont choisi d'exclure de leur cadre un certain nombre des personnes qui les dérangeaient de ce point de vue-là. Mais maintenant, les choses sont pas si simples parce que il existe des lois qui obligent ces institutions à conserver ces personnes en leur sein. Et donc, il faut trouver pour cela des solutions. En tous les cas, les choses ont considérablement évolué depuis une trentaine d'années et j'imagine que c'est un terrain passionnant pour le sociologue que vous êtes, Romuald Baudin, d'observer ces changements et ces tensions, au fond, entre institutions différentes.
Oui, c'est très intéressant parce que ça permet à la fois donc de mieux comprendre ce qui se joue autour de la question du handicap et par ailleurs de travailler sur un élément de la sociologie des institutions qui est central, c'est l'évolution, la transformation et la plasticité, si l'on veut, des institutions. Dans le cadre de l'éducation nationale, de l'institution scolaire, depuis la loi de 2005, s'est mis progressivement en place ce qu'on appelle l'inclusion scolaire. C'est-à-dire que plutôt que l'exclusion des élèves en situation de handicap, on a été progressivement conduit à placer ses élèves dans des classes ordinaires, alors sous certaines conditions, dans certaines limites, etc. Mais progressivement, on essaie de réintroduire ces élèves, donc d'éviter toute exclusion, hein, d'éviter le placement.
C'est devenu un principe. Éviter l'exclusion est devenu le principe directeur.
Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident que ça, et que c'est bien au fond quelque chose qui vient confirmer ce que j'essaie de montrer, dans la mesure où l'inclusion scolaire est moins une remise en question pour radicale de l'institution scolaire dans son fonctionnement que la preuve de sa plasticité, de sa capacité à s'adapter à des demandes sociales qui ne vont pas nécessairement dans le sens du maintien de ses habitudes et de son fonctionnement ordinaire. Dans l'inclusion scolaire, il y a un paradoxe qui est que d'un côté, on réintroduit, si je puis dire, le terme est un peu peut-être maladroit, mais en tout cas, on voit ces élèves en situation de handicap sortir des établissements spécialisés pour revenir dans l'école et les classes ordinaires. Et en même temps, c'est fait de manière à ce que ces élèves acquièrent un statut qui les distingue complètement des autres et maintient une forme d'exclusion à l'intérieur, qui du coup permet à la fois à l'école donc de se présenter comme non excluante, et effectivement elle l'est, hein, pour moi ça reste malgré tout une avancée notable, mais une avancée qui est toute paradoxale parce que cette manière de faire de l'école permet à l'école de ne pas modifier son fonctionnement, ses valeurs, son système, voilà.
En tous les cas pas suffisamment, parce que c'est aussi vraiment l'un des résultats précieux de votre enquête, que de montrer que finalement parfois, les choses se retournent contre les institutions. C'est-à-dire que, alors du fait de ces changements législatifs, mais parfois, l'institution crée le handicap, d'une certaine façon, en tant que tel, socialement, mais le handicap peut se trouver dans une situation où il peut profondément, à terme, en tout cas, modifier l'institution. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, mais ça prendra beaucoup de temps à l'école.
Oui, là, vous insistez sur l'autre face de l'objet, et vous avez raison de le faire, parce que j'essaie pas de dire que les institutions ne changent pas et maintiennent sans cesse les mêmes formes d'exclusion. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est la dynamique des institutions. Et que toutes les mécanismes de régulation qui permettent aux institutions de se maintenir en l'état les conduisent parfois à changer malgré elle. Et c'est le cas effectivement pour l'inclusion, c'est-à-dire que d'un côté la désignation d'un certain nombre d'élèves comme élèves en situation de handicap permet à l'école de se maintenir en les excluant parce que leur manière d'être ne fait prendre un risque à l'institution scolaire si elle les maintenait en son sein, mais de ce fait-là elle crée des nouvelles catégories de handicap qui deviennent suffisamment nombreuses ensuite pour créer une demande sociale de retour à l'école ordinaire, c'est-à-dire donc d'inclusion. Et cette inclusion oblige malgré tout l'institution à se transformer, enfin à répondre par justement cette inclusion-là. Et du coup, alors il est impossible de prédire ce qui va advenir, mais on voit bien comment l'institution scolaire, malgré elle, et pour se maintenir en l'état, en vient à se transformer.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais je pense important pour passer un peu de temps, il y a quelque chose qui frappe quand on s'intéresse à cette question du handicap, c'est la centralité d'une administration unique, au fond, d'une maison du handicap, alors même s'il y en a par département, mais en tous les cas, une administration qui prend en charge des situations qui sont extraordinairement différentes. Ça va pas de soi, enfin ce n'est pas du tout une évidence, on aurait pu imaginer que les choses soient organisées autrement. Alors comment on en est arrivé là, et surtout, Romuald Baudin, quels effets cela a aussi bien sur les personnes désignées comme handicapées que sur les institutions qui ont contribué à les désigner comme telles?
Alors oui, effectivement, c'est un des paradoxes de la question du handicap, c'est que ce que observe tout le monde, ce que j'ai observé, mais ce qui était déjà observé avant mon travail, et ce que les gens qui travaillent sur ces questions-là, alors je parle pas que des chercheurs, mais les personnes sur le terrain observent, c'est la diversité, l'hétérogénéité de cet espace, de ces personnes qui sont considérées, désignées comme des personnes handicapées. Et pourtant, il existe un seul terme pour les désigner, comme s'il y avait quelque chose qui les réunissait.
Seulement un terme, c'est plus une catégorie d'action publique,
tout à fait.
Ce qui est encore plus important d'une certaine façon.
Et justement, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que en fait, c'est d'abord une catégorie d'action publique, c'est-à-dire que ça s'est construit comme tel. Ça s'est pas construit avec en s'appuyant, c'est pour ça que je parle de groupe nominal et pas de groupe réel, parce que ça s'est pas c'est pas une catégorie qui s'est construite en s'appuyant sur une proximité réelle entre ces personnes-là, mais qui a construit de toutes pièces la réalité de ce groupe-là.
Ni sur une mobilisation, par exemple, comme on a pu le voir dans le cas d'associations de malades pour telle ou telle situation, il y a des groupes sociaux qui se sont mobilisés et qui ont abouti à leur prise en charge, en quelque sorte, par l'administration. Là, on n'a jamais vu une mobilisation commune à tous les handicapés demandant véritablement la création de d'un guichet unique, en quelque sorte, pour ces situations extraordinaires. C'est plutôt par le haut que ça s'est produit.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu des mobilisations, mais des mobilisations sectorielles. Mais la réponse de l'État a été donc cette création de la catégorie de handicap, mais pour des raisons purement gestionnaires, si vous voulez, de rationalisation bureaucratique et administrative, puisqu'il s'agissait donc de centraliser toute une série de décisions et d'activités de régulation de ces personnes en difficulté, la distribution des aides, la mise en relation des différents établissements, etc. Et pour ce faire, on a créé une catégorie unique et un guichet unique. Alors, au départ, il y avait deux guichets, la Cotorep et la CDES, puis un seul guichet. Alors, le mouvement s'est fait sur plusieurs décennies, la MDPH aujourd'hui. Et donc, il y a une centralisation comme ça des lieux de décision et des lieux de gestion de ces difficultés. Ce qui a créé de toutes pièces ce groupe comme un groupe réel, alors que ce n'est qu'un mot, qu'une catégorie administrative de personnes en situation de handicap ou de handicap tout court. Seulement, ça a des effets très concrets sur les personnes concernées.
Quels sont-ils ?
Alors, il y a la première chose à comprendre, c'est que de fait, puisque c'est un groupe nominal et que ces personnes-là n'ont a priori rien
de commun, c'est pas une identité.
Voilà, c'est pas une identité, en tout cas a priori, elle le devient a posteriori. La première chose, c'est que ces personnes-là sont confrontées, quand elles demandent une reconnaissance de handicap, à des dossiers, à des catégories administratives qui sont très éloignées de ce qu'elles vivent au quotidien, de ce qui leur semble être leur situation. Ce sont des catégories bureaucratiques, abstraites, désincarnées, qui les conduit donc d'abord, quand on remplit ces dossiers-là, à réapprendre à se dire. Parce qu'évidemment, ce vocabulaire-là n'est pas celui qu'on utilise au quotidien quand on vit une situation de handicap. Alors, ils réapprennent à se dire à travers les catégories administratives et bureaucratiques des MDPH. Qui plus est, ces dossiers sont souvent assez complexes et beaucoup de ces personnes, par conséquent, ont besoin d'une aide pour remplir ces dossiers-là. Des associations, des professionnels, des psychologues, des travailleurs sociaux qui les aident à remplir ces dossiers-là, ce qui a un effet très concret, qui leur donne progressivement le sentiment d'une dépossession d'eux-mêmes, d'une dépossession de leur parcours, mais aussi de ce qu'ils sont, de leur identité, etc. Paradoxalement, ça crée une homogénéité du groupe, parce que ces personnes-là vont commencer à apprendre à se dire avec les mêmes mots, alors que c'est pas le cas spontanément, ils vont commencer à apprendre à se dire en tant que ayant un handicap sensoriel par exemple ou ayant un handicap moteur, ce qui déjà est problématique parce que quand on voit la diversité de ce que se recouvrent ces catégories-là, c'est pas nécessairement d'une grande évidence. Et puis progressivement, ils vont au-delà de cette homogénéité acquérir des tendanciellement, parce que ça varie selon les individus, mais des manières de se penser du type ça produit encore des formes de un sentiment de perte de contrôle. Je cherche mes mots, je suis désolé.
Non mais c'est très clair, Romuald Bodin. Je voudrais vous donner l'occasion aussi de d'expliquer peut-être ce à quoi vous aboutissez, puisque dans la conclusion du livre vous écrivez ceci: si notre analyse est juste, la modification de l'environnement proposée comme solution centrale au handicap par la loi et par nombre de théories contemporaines suivant une problématique de l'accessibilité ne saurait ni faire disparaître ni même réduire le handicap. Là, ce que vous pointez du doigt, c'est très important, c'est la question de la politique publique aussi du handicap et ce prisme de l'accessibilité comme prisme prioritaire désormais de l'action publique en la matière. Un prisme qui peut-être est nécessaire mais certainement pas suffisant, c'est la conclusion à laquelle vous arrivez après cette première enquête, parce que je crois que vous en avez d'autres en cours.
Oui, alors effectivement, c'est que ce type de raisonnement et l'importance qui est mise sur la question de l'accessibilité, elle reste enfermée dans une conception du handicap qui est celle de l'approche socio-environnementale ou sociale-environnementale qui voit des déficiences confrontées donc à un environnement qui est plus ou moins contraignant. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui est très réducteur. Pour donner un exemple concret, j'ai un certain nombre d'entretiens, réalisé un certain nombre d'entretiens avec des personnes en situation de handicap, par exemple des personnes aveugles, donc qui m'expliquent qu'elles vivent dans des quartiers où particulièrement bien aménagés pour les aveugles. Par conséquent, il serait tout à fait logique pour eux de pouvoir sortir aussi beaucoup plus facilement que s'ils vivaient ailleurs. Mais il m'explique que c'est pas beaucoup plus simple pour autant, parce que sortir dehors, ça se réduit pas, la possibilité de sortir, ça se réduit pas au fait de pouvoir repérer le passage piéton, etc. Mais simplement, ce qu'ils vivent, c'est aussi que, alors un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le fait de pouvoir stationner, par exemple, debout, hein, j'entends, à pied, à côté d'une terrasse de café, par exemple, et se voir critiquer, repousser, parce qu'on se retrouve pas au bon endroit. Alors, ce genre de choses rappelle que le monde social, c'est pas simplement des bâtiments, c'est pas simplement des repères, c'est pas simplement voilà du matériel, c'est aussi des interactions, c'est aussi des manières de se comporter les uns par rapport aux autres, et puis des représentations, c'est-à-dire qu'il y a certaines façons d'être qui ne sont pas considérées comme normales ou qui ne sont pas considérées comme acceptables, et la concentration sur l'accessibilité fait oublier cela et fait un peu oublier la question des représentations et de la vision qu'on a de l'autre, la manière qu'on a de se comporter vis-à-vis des autres. Par ailleurs, on peut rajouter qu'il y a aussi un paradoxe, c'est-à-dire que l'accessibilité renvoie bien souvent à une forme d'exclusion qui cache son nom. Par exemple, on l'observe quand se met en place des rampes pour les personnes en fauteuil ou des passages spécifiques qui, en quelque sorte, pour les personnes aveugles ou pour d'autres handicaps, mais qui séparent en quelque sorte les passages pour personnes non handicapés, les personnes en situation de handicap. Et quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que ce qui est plus protégé, c'est moins la personne en situation de handicap que la vie ordinaire, c'est-à-dire l'institution, encore une fois, l'institution d'espace public, dans la mesure où les personnes qui ne sont pas considérées par le handicap peuvent continuer à vivre comme si de rien n'était, puisque de toute façon, ils n'empruntent pas les mêmes voies, les mêmes chemins, et n'ont du coup pas à s'inquiéter de ce qui est vécu par les autres.
Je le disais, Romuald Baudin, ce n'est que le début pour vous d'un travail. Quelles sont les pistes de recherche que vous développez désormais autour de cette question du handicap ?
Alors il y a une question moi qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle j'ai commencé à travailler sur la manière en prolongeant en quelque sorte les travaux de Goffman sur la distinction entre handicap visible et handicap invisible sur la manière dont on peut contrôler l'information à son propos. Ce que dit Goffman, c'est que les handicaps invisibles ont cet avantage par rapport aux autres de donner plus de marge en ce qui concerne le contrôle de l'information sur sa propre situation, son statut, etc. Dans l'interaction avec les autres. Ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est loin d'être si clair en réalité et que les handicaps invisibles peuvent produire des effets pervers dans la mesure où ils vont renforcer dans certaines situations la stigmatisation. Par exemple, dans les situations de travail où un handicap peut conduire à un aménagement de poste. Mais si le handicap est par ailleurs invisible, il va y avoir un soupçon de tricherie, fraude, de fraude, voilà, et de bénéficier de privilèges parce qu'on bénéficie donc d'aménagement de poste, alors que peut-être on n'aurait pas tant de difficultés que cela, de fait, parce que ça ne se voit pas.
Alors, on continue à parler du handicap, de la politique du handicap, de cette question de l'accessibilité dans la deuxième partie de l'émission avec Anne-Sara Kertudo, mais ce sera après avoir entendu un extrait du nouvel album, le cinquième, de Sharon Van Etten, No One's Easy to Love.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Yeah.
L'institution du handicap, c'est le titre du livre que Romuald Bodin fait paraître aux éditions La Dispute. Nous en parlons depuis le début de cette suite dans les idées. Nous en parlons pour la deuxième partie en compagnie de vous, Anne-Sara Kertudo. Vous êtes juriste, vous dirigez une association qui s'appelle Droit Pluriel, Droit au singulier, pluriel au singulier, qui est une association qui milite pour l'accès au droit. Mais je vais vous laisser vous présenter parce que peut-être au fond est-ce mieux ainsi. Vous êtes vous-même en situation de handicap, mais je ne sais pas du tout si c'est une expression dans laquelle vous vous reconnaissez ou comment vous dites les choses.
Bonjour. Mais je trouve ça intéressant que déjà pour un professionnel de la parole que vous êtes, mettre des mots sur cette situation, c'est compliqué. Je crois que ce qui est compliqué pour vous aujourd'hui, c'est de dire que je suis aveugle, en fait, tout simplement, ce qui est normal puisque c'est très difficile à manier tous ces mots-là aujourd'hui dans la société. C'est un peu le propos de votre livre. Donc, effectivement, je suis directrice de l'association Droit Pluriel, qui est une association qui travaille notamment en partenariat avec le Défenseur des Droits, sur le projet de rendre la justice accessible à tous.
Alors vous êtes aussi, je le disais en commençant l'émission, le personnage principal, celui qui donne son titre au roman de Mathieu Simonet qui paraîtra dans quelques jours aux éditions du Seuil, Anne Saraka. Mathieu Simonet est avocat et il est romancier par ailleurs. Vous le connaissez depuis fort longtemps puisque vous étiez à l'école ensemble et que vous avez, le droit vous a rapproché aussi d'une certaine façon, lui comme avocat, vous parce que vous avez fait des études de droit qui ont été à un moment empêchées, ou plutôt la professionnalisation vers le métier d'avocat du fait de votre situation de handicap. J'imagine que c'est à l'origine aussi de votre mobilisation citoyenne, politique et de votre activité principale aujourd'hui, Anne-Sara.
Oui, bien sûr, ça a été très important. C'est-à-dire que moi, je voulais au départ être avocate et on a mené avec Mathieu Simonet nos études de droit ensemble. Et puis moi, à un moment, il y a la directrice de l'Institut d'études judiciaires, qui est l'institut par lequel il faut passer pour...
passer le concours du barreau.
Oui. Qui m'a convoqué en me disant, mais pour vous, c'est pas possible.
C'est déjà compliqué pour les autres, mais alors pour vous, ce sera encore plus compliqué.
Voilà, et c'est au bout d'une procédure de 4 ans, de tribunal en tribunal, que Mathieu Simonet, qui était non seulement mon ami, mais dans cette affaire, qui est devenu mon avocat, qu'on a gagné pour discrimination.
Alors, vous avez entendu depuis le début de l'émission Romuald Bodin parler de sa recherche de sociologue sur l'institution du handicap et de la manière dont finalement il vient enrichir toutes les recherches qui existent en radicalisant peut-être le propos sociologique. Comment vous recevez ce type d'enquête? Est-ce que ça vient nourrir votre réflexion et vos approches sur la question?
Je pense que tous les travaux sont bons parce que c'est effectivement un sujet qui est peu exploité et la France là-dessus a un retard colossal. Ça intéresse beaucoup ailleurs, dans d'autres pays, mais en France effectivement c'est très minoritaire. Alors c'est très bien que des chercheurs se penchent sur cette question et puis le travail que vous avez rédigé va dans le bon sens évidemment. Après en termes de radicalisation, moi je crois qu'il faut aller encore plus loin, il faut être vraiment encore plus radical sur la question. On est dans une situation aujourd'hui, on parlait de la définition du handicap dans la première partie. La première définition qu'il faut connaître, c'est celle du dictionnaire qui définit le handicap comme une infériorité.
Ça, c'est encore aujourd'hui dans le dictionnaire.
Absolument.
Or, il s'est défini comme ça dans le dictionnaire, et par ailleurs, c'est une catégorie d'action publique qui vise, au contraire, à faire en sorte que les choses soient accessibles, qu'il n'y ait pas d'inégalité. Mais il y a là une sorte de paradoxe, au fond.
Alors, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si on peut poser ce diagnostic-là d'une politique publique qui va dans le sens de l'accessibilité universelle qu'on demande. Toute la polémique sur la loi Elan montre au contraire que c'est pas du tout toujours dans ce bon sens que ça va. Après, ce sur quoi on insiste, c'est que finalement, le handicap, il est toujours étudié dans une démarche, dans un aspect populationnel, là où il faut peut-être se pencher sur une situation. Donc c'est aujourd'hui le handicap, surtout le regard d'un groupe sur un autre. Et cette définition de l'infériorité le caractérise bien. Et effectivement, quand on regarde en termes de droit, On est vraiment dans une justice, dans une société à deux niveaux, avec une population qui a accès et droit à, pour tout le monde, et puis les autres, ceux qu'on a désignés comme population handicapée, là, on n'a pas droit effectivement à l'accès égal à l'école, à la justice, à la culture. Voilà, donc on est vraiment dans deux niveaux. Donc on est, pour moi aujourd'hui, le handicap est pour... tout un tas de militants sur cette question-là, c'est surtout la domination, une démarche de domination d'une population sur une autre. Et nous, le handicap, ça, je crois que c'est il faut que ça disparaisse. C'est un mot qui n'a aucun sens. Être handicapé, ça permet juste d'exclure une certaine catégorie de population et de la mettre à part, c'est tout.
Romuald Bodin, ce que dit Anne-Sara Cartudo, au fond, c'est que quand on fait de la sociologie du handicap, on fait de la sociologie politique, on fait de la sociologie de la domination aussi.
Ah, tout à fait, complètement. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. D'une part, une partie de mon travail, c'est effectivement de montrer que le handicap, c'est pas une infériorité, ça n'a aucun sens de dire cela. Alors, j'utilise l'expression d'anormalité d'institution pour décrire ces manières d'être que l'institution écarte. Et ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui est en danger dans ces situations-là, c'est l'institution, ce ne sont pas les personnes concernées, et qu'elles sont, elles ont du pouvoir en quelque sorte, elles ont un pouvoir de mise en question ou de remise en question de l'institution qui explique la réaction de l'institution. Et effectivement, c'est bien une question de pouvoir et de domination et d'exclusion, hein, comme vous l'évoquiez, d'une population sur une autre, puisque alors la seule nuance que j'apporterai, c'est que c'est pas à proprement parler une population sur une autre. Ça, c'est le résultat. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est le résultat. Moi, ce que j'essaie d'identifier, c'est la genèse.
Elle est artefactuelle pour vous, c'est-à-dire qu'elle a été créée par...
Par ailleurs, elle est artificielle, oui, tout à fait, mais ce sur quoi j'essaie de travailler, c'est sur la genèse de cette opposition entre deux populations. Et pour le coup, c'est un processus qui est beaucoup plus diffus et complexe que certaines lectures très politiques qu'on peut en avoir, qui passe par le biais des institutions et de leurs mécanismes de régulation au quotidien. Voilà, c'est des choses qui se passent vraiment au quotidien, de manière très ordinaire et qui ensuite est saisie à travers des instances politiques et conduit à cette opposition entre deux populations, ce sur quoi je suis entièrement d'accord. Et il y a clairement une exclusion d'une population par rapport à une autre qui ne dit pas son nom, puisque au contraire, on nous présente toujours les choses sous la forme de l'inclusion et de la bien-pensance, dans la mesure où ce sont des gens inférieurs, fragiles qu'il s'agit d'aider, alors que tout ce que j'essaie de montrer, c'est qu'ils sont loin d'être fragiles. Alors, encore une fois, je ne dénie pas, je ne suis pas dans la dénégation de la difficulté rencontrée par un certain nombre, mais au fond on pourrait faire le lien avec certaines maladies, c'est-à-dire qu'il y a certains handicaps qui conduisent à des fragilités, qui conduisent à des souffrances, mais de la même manière que dans le champ médical on trouve plein de difficultés qui sont pas du handicap et qui conduisent à la même fragilité, à la même voilà, mais ça ne change rien. C'est pas
Anne-Sara Cartudo.
Oui, moi j'avais envie de dire, j'ai aussi beaucoup envie de rapprocher, c'est je crois que c'est ça la situation aujourd'hui, finalement la lutte des personnes handicapées aujourd'hui, elle est pas du tout différente de la lutte des Noirs, des femmes, de toutes les minorités qui sont écartées sous un prétexte ou sous un autre. Après, ce que je trouve intéressant, c'est s'interroger effectivement sur l'institution. Pour vous donner un exemple, par exemple, alors d'abord le handicap, ça repose toujours sur la personne qui, dans son corps, est concernée par la cécité, la surdité, etc. Alors que je crois que ça interroge seulement l'institution. Par exemple, nous, on travaille donc à Droit Pluriel sur l'accès au droit, à la justice. Et vous avez une personne sourde qui arrive en audience, qui a besoin d'un interprète en langue des signes pour communiquer avec le magistrat. On se pose toujours du côté de la personne sourde. C'est la personne sourde qui est en difficulté, c'est elle qui a besoin d'un interprète. Et ça interroge vraiment, parce que comment on peut penser une justice qui, elle, ne se dit pas « j'ai besoin d'un interprète en langue des signes pour que le travail de la justice soit bien fait, pour que la justice soit rendue de manière équitable ». Et on parle toujours de l'interprète du sourd. C'est-à-dire qu'il est entendu que l'institution est faite pour une certaine catégorie de la population et que effectivement les autres doivent construire des outils qui vont leur permettre de se débrouiller dans cette institution qui ne leur est pas ouverte au départ. Donc je crois que c'est cette grande question que pose le handicap, c'est comment on a pu vivre aussi longtemps en acceptant tout simplement de mettre sur le carreau, quand même c'est pas trois personnes, hein, c'est au moins une personne sur dix, et ça va aller en grandissant. Et quand est-ce qu'on va commencer à penser les choses pour tout le monde ?
Romuald Bodin, sur cet exemple.
Oui, je trouve que c'est un très très bon exemple parce que il permet de bien comprendre ce que j'essaie de dire par cette puissance de remise en question de la situation de handicap au regard de l'institution, parce que dans l'institution, il y a plein de situations juridiques, il y a plein de situations dans lesquelles il y a des personnes qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits dans ce cadre-là. Et c'est le cas, par exemple, il y a plein de travaux en sociologie du droit sur les personnes à un capital culturel relativement faible, les personnes qui sont en difficulté sociales, voilà, qui sont mal représentées ou ne comprennent pas bien la manière dont ils pourraient être bien représentés, etc. Mais là, ça ne pose pas de problème à la justice, en fait, parce que c'est intégré, en quelque sorte, dans son fonctionnement, c'est-à-dire que c'est suffisamment invisible pour ne pas remettre en question son fonctionnement. Par contre, la personne sourde, si elle n'est pas représentée, si elle ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'y a pas de traducteur, là, de manière particulièrement visible, l'institution se retrouve face à une contradiction. Vous l'avez dit vous-même, parce que elle devient injuste. La justice devient injuste. Et donc, c'est l'institution qui se voit remise en question potentiellement par cette situation-là. Et du coup, le mécanisme que met en place l'institution, c'est de désigner cette personne-là comme fragile, comme ayant un problème. C'est pas elle qui a un problème, vous l'avez dit. C'est la personne qui a un problème. Et du coup, elle la désigne comme personne handicapée. Alors qu'en fait, on pourrait voir qu'il y a... Tout le monde est loin d'être égal face à la justice, mais c'est de manière suffisamment floue et invisible pour que ça ne soit pas désigné comme tel, parce que ça ne la met pas en contradiction, ça ne la remet pas nécessairement et visiblement en question.
L'un des intérêts du travail de Romuald Bodin, Anne-Sara Kertudo, c'est le fait d'insister sur ce cadre institutionnel. C'est-à-dire que, au fond, la personne considérée comme handicapée n'est pas face à l'État avec un grand E, elle est dans des situations concrètes, face à un magistrat, face à un instituteur, face à quelqu'un à une terrasse de café, pour reprendre l'exemple qu'il prenait tout à l'heure. Donc au fond, la nature politique de cette domination dont vous parliez, elle n'est pas abstraite, elle n'est pas générale à travers des grandes catégories, mais elle se concrétise au quotidien, pour vous comme pour ceux que vous aidez grâce à votre association, j'imagine, Anne-Sara Kertudo.
Oui, alors on est complètement dans le concret, effectivement. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est tout le temps à un moment confronté à quelque chose, c'est que, alors on travaille sur des populations dites handicapées, on travaille à rendre la justice accessible à tous, et on part de cet empêchement qui va s'opposer à la personne sourde, à la personne aveugle, à la personne qui est autiste, etc. Et à un moment dans le dialogue, on fait des formations auprès des professionnels du droit, à un moment dans le dialogue, à chaque fois, on finit par nous dire « Mais vous savez, toutes ces difficultés-là, finalement, c'est tout le monde qui est confronté à ça. » C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a même pas besoin d'être sourd pour ne rien entendre dans une audience. Il n'y a pas besoin d'avoir une difficulté particulière cognitive pour ne rien comprendre à un acte d'huissier. Donc, en fait, c'est une société
qui... Il suffit d'un lexique et d'un vocabulaire ou des manières d'écrire très absconses, par exemple.
C'est complètement hermétique. C'est un jargon qui est pensé pour n'être compris que par une élite. Donc, nous, on parle de handicap, mais tout ce qu'on soulève, c'est vraiment des leviers de domination en général de la population.
Ça, c'est intéressant, Romuald Bodin, parce que ça permet de se saisir de la question du handicap, entre guillemets, comme un prisme pour voir des problèmes sociaux qui sont beaucoup plus généraux qui n'y paraît de prime abord.
Oui, complètement. C'est en quelque sorte un prisme, vous avez utilisé le terme, un prisme du fonctionnement des grandes institutions. C'est pas le hasard si chaque institution se trouve mise en question face à des handicaps qui sont pas de même nature. L'école, en quelque sorte, s'en sort beaucoup mieux avec certains handicaps moteurs qu'avec la déficience intellectuelle. Alors qu'à l'inverse, dans d'autres situations, le handicap moteur posera beaucoup plus de problèmes que la déficience intellectuelle. Et donc, c'est effectivement une manière de bien comprendre comment fonctionnent les institutions, quels sont leurs, j'ai envie de dire, leurs programmes. Et du coup, ça éclaire, c'est pour ça que je dis que mon livre n'est pas qu'un livre de sociologie du handicap, mais aussi un livre de sociologie des institutions.
Ça, cette manière de se saisir du handicap pour souligner des choses qui concernent absolument tout le monde, ça fait partie du cœur de votre programme politique, pour le coup, au sens de cette association. C'est-à-dire que, Anne-Sara Kertudo,
oui, bien sûr, effectivement, c'est valable sur tout ça. Donc nous, on parle beaucoup de justice, mais si on pense l'école, effectivement, on sait que l'école aujourd'hui, si elle était pensée pour tous les enfants, c'est-à-dire également ceux qui sont autistes, qui ont une difficulté visuelle, etc., ça permettrait que tous les enfants, mais tous, puissent avoir une éducation qui leur est accessible, qui leur est appropriée, qui leur donne les mêmes chances. Là, on est dans l'égalité des chances. Et le fait d'avoir pensé la société pour une extrême minorité, ben, ça met en échec tout le monde, en fait, aujourd'hui. Et je crois que tous les mouvements de révolte qu'on a vécu là, ces derniers temps, c'est ça que ça raconte. Toutes ces gens qui n'ont pas été compris dans la société pour qui on construit les institutions, aujourd'hui disent « ça suffit ». On fait partie du tout, le collectif, c'est nous tous.
Merci beaucoup, Anne-Sarah Kertudo. On trouvera le lien vers le site de votre association de droit pluriel sur la page de la suite dans les idées. On y trouvera également la référence du livre de Romuald Bodin, L'institution du handicap, qui paraît à la dispute. Voilà, c'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Pierrick Charles et à la réalisation Anne Pérez-Franquine. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.